Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
19h22, on poursuit donc notre édition spéciale à quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Dans moins de 40 minutes, le président de la République doit préciser les contours du déconfinement gradué, ouverture des commerces, reprise des activités pour les plus jeunes, lieux de culte, règles du 1 km. Beaucoup d'éléments seront précisés ce soir. Et les attentes du monde économique, c'est vrai, sont fortes. Salariés, patrons, commerçants, citoyens, il en va de leur survie pour beaucoup d'entre eux. On en parle donc ce soir avec Francis Palombi, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Confédération des commerçants de France. On en parle avec Stéphane Gaudry, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et on en parle avec Jean Duménil, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général de la CPME. Peut-être une première question à vous, Jean Duménil. Avez-vous eu l'assurance que les commerces pourront bien rouvrir, comme on l'entend beaucoup depuis plusieurs jours? Et si oui, à partir de quelle date? On parle du 28 ou du 30 novembre. Est-ce que vous avez des informations?
Oui, ça fait plusieurs jours qu'on travaille avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Donc effectivement, il nous a été confirmé, sous réserve de ce qu'allait dire finalement le président de la République, puisque
oui,
c'est lui le juge-arbitre final, que les commerces allaient réouvrir. Et nous avons plaidé très très fortement pour que cette réouverture intervienne le 27 et au plus tard le 28, pour une raison très simple, c'est que c'est un week-end en période de Noël et les commerçants ont besoin d'avoir un week-end de plus. Certains d'entre eux réalisent un pourcentage non négligeable de leur chiffre d'affaires dans cette période. Juste pour mémoire, les marchands de jouets dans la période de Noël,
oui,
c'est à peu près 60% du chiffre d'affaires
annuel.
Est-ce qui a été
perdu, va pouvoir être rattrapé pendant le laps de temps qui nous sépare de Noël?
Alors, dans certains cas, probablement. Si on parle des jouets, par exemple, on peut espérer que les gens, effectivement, vont pouvoir faire leurs courses de Noël.
Si tout n'a pas été acheté sur les plateformes.
Alors voilà, il y a ça, d'une part. Il y a ce qui a pu être acheté sur les plateformes, qui effectivement ne sera pas acheté dans les commerces. Et puis, on sait très bien que, par exemple, si on parle de l'habillement, il y a certaines choses qui ne sont pas rattrapées et qui ne seront pas rattrapables.
Ouais.
Donc, donc, on ne récupérera pas l'intégralité. Et quand on parle de réouverture, on sait très bien aussi que cette réouverture s'effectuera dans des conditions sanitaires particulières qui ne permettront pas de récupérer l'ensemble de la clientèle et du chiffre d'affaires. Et donc, il faudra impérativement maintenir des aides pour ces commerçants.
Oui, il y a un protocole sanitaire qui a été arbitré avec Bercy, je crois que c'était vendredi. La jauge passerait à 8 mètres carrés par personne contre 4 mètres carrés avant le reconfinement, y compris d'ailleurs dans les grandes surfaces et hypermarchés, les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Il faudra donc réguler évidemment le nombre de personnes à l'entrée et à la sortie, les compter pour que ça ne se bouscule pas à l'intérieur des moyennes et grandes surfaces. Francis Palombi, est-ce que vous êtes soulagé de cette réouverture qu'on attend imminente des petits commerçants? Moi, je me souviens, je vous ai reçu il y a un mois, vous étiez abattu et vous me disiez on n'arrive plus à tenir les commerçants qui sont vent debout et la colère gronde sur le terrain.
Alors, la colère n'a pas complètement disparu chez les commerçants. Il y a quand même une tension, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, il y a des situations économiques, comme l'a dit mon collègue Jean Duménil de la CPME, il y a des situations gravissimes.
Oui.
Et les aides de l'État devront continuer, même les 20 milliards, 15 plus 5 qui ont été affectés par le gouvernement, il faut le reconnaître quand même. Pour soutenir sur ce mois de novembre, début décembre, les entreprises, il faudra continuer, renforcer ces aides, parce que sinon, ça risquerait d'être des faillites. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants de la jauge.
Oui.
Alors, bien évidemment, moi, je porte principalement des très petites entreprises dont les surfaces sont de 30 à 100 mètres carrés, à peu près.
Donc, ça sera un problème pour ces entreprises-là? Pour ces commerçants?
Pour les très petits magasins, c'est plutôt un problème,
oui,
de passer de 4 à 8. Alors c'est vrai que si les mesures techniques se précisent ou sont établies comme c'est le cas, le calcul n'est pas le même pour 8 que pour 4.
Alors,
mais nous aurions espéré que jusqu'à 100 mètres carrés,
oui,
ça reste à 4.
On dit justement, pour parler de ces protocoles, Jean Duménil, que les horaires d'ouverture pourraient également être élargis pour permettre aux commerçants d'accueillir du monde, évidemment, étalé dans la journée, avec des ouvertures le dimanche. Alors vous me direz, le dimanche est à peu près normal en période de Noël, puisque les magasins, sur les deux ou trois derniers week-ends de Noël, sont autorisés historiquement à le faire. Mais ce sera le cas.
Alors je vous confirme qu'on a travaillé là-dessus avec les pouvoirs publics ces derniers jours. Effectivement, c'est une piste qui semble se dessiner, on aura confirmation tout à l'heure. C'est assez technique, parce qu'en réalité, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les dimanches du maire, qui permettent à chaque municipalité de donner aux commerçants présents dans la localité la capacité à ouvrir certains dimanches dans l'année. Et là, simplement, il faut le demander. C'est une demande individuelle qui doit être formulée avant. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, évidemment, c'est qu'on puisse avoir des dérogations automatiques pour que les commerçants puissent ouvrir dans la période de Noël et au-delà, qu'ils puissent ouvrir même de la même façon durant le mois de janvier, de façon à récupérer un peu de chiffre d'affaires. Oui. C'est ça dont on a besoin. Et en principe, on a eu l'assurance de la ministre du Travail, puisque c'est elle qui est compétente, que les préfets auront des consignes dans ce sens-là.
Bien, et on continue d'en parler ensemble. 19h27, vous restez avec nous. On entendra le professeur Gaudry dans quelques secondes sur la dimension sanitaire. A tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Oui, 19h30, c'est la suite de notre édition spéciale. À quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron, l'attente est forte dans le pays avec un déconfinement partiel. Attention, l'Élysée ne veut pas parler de déconfinement. Le déconfinement restera de vigueur, mais il y aura un relâchement pour notamment les commerçants, pour les autorisations de déplacement. On attend cette prise de parole dans 30 minutes. On est toujours avec nos invités et notamment le professeur Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Question toute simple, professeur, pour commencer avec vous sur la dimension sanitaire. Est-ce que, au vu des chiffres, c'est un bon moment, c'est le bon timing pour commencer un déconfinement gradué ?
Alors, oui, on arrive à des chiffres qui commencent à être... on va dire satisfaisant pour commencer ce déconfinement, puisque hier, il y avait déjà moins de 5000 personnes qui étaient atteintes du Covid dans la journée.
Ce qui était l'objectif donné Emmanuel Macron.
Mais il faut savoir que ça va monter probablement mardi, mercredi. Pour des questions de statistiques. Et ce qu'il faut regarder, c'est le lissage de ce chiffre-là sur 7 jours. Donc, on en est proche. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. C'est toujours un problème d'anticipation. Et dans l'anticipation, il y a la réouverture progressive, notamment
des commerces. Mais on est d'accord, je posais la question tout à l'heure à 18h20 à Axel Kahn, le généticien, on est d'accord que le pic de la seconde vague ou de la deuxième vague, en espérant qu'il n'y en ait pas une troisième, est derrière nous maintenant.
Alors oui, tout dépend de ce qu'on appelle le pic, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu les hospitalisations se réduire ces derniers jours. Alors en réanimation, ce n'est pas encore le cas, mais ça, on le sait que c'est en dernier lieu les réanimations qui vont se vider. Puisque nos malades, malheureusement, restent pendant 2 à 3 semaines en réanimation et les malades les plus graves sont actuellement hospitalisés. Donc la charge de travail dans les secteurs de réanimation en Île-de-France et en France est très, très intense en ce moment. Les services sont très, très, très impactés actuellement. Mais on sait déjà que dans 2 semaines, ce sera beaucoup plus calme du fait que les contaminations en ville ont réduit.
Donc ça veut dire que la stratégie du gouvernement a été la bonne sur la fermeture des commerce, sur la fermeture des restaurants, sur la fermeture des bars et sur ce semi-confinement.
Alors, moi, encore une fois, je commente assez rarement les décisions politiques. Ceci dit, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que si on n'avait pas fait ce confinement, alors maintenant, on peut discuter des différentes possibilités, enfin, différentes façons de faire un confinement. Mais si on n'avait pas fait ce confinement, on serait dans une situation bien plus dramatique. C'était nécessaire. Je pense que ça a été très très utile pour justement limiter la charge sur le système de soins.
Je vous pose la question et puis on fera réagir Jean Duménil, secrétaire général de la CPME qui représente donc les PME françaises, parce que je cite toujours cette étude moi qui m'a beaucoup frappé, qui a été publiée dans la revue Nature, qui pour la première fois a montré les lieux de contamination commerce par commerce. Et on y apprenait dans cette étude qui a été menée sur plus de 200 000 cas aux États-Unis et sur la mobilité des Américains qui étaient contaminés que oui, les restaurants sont un endroit de contamination important, les bars également, les lieux de convivialité, mais pas les petits commerces. Donc on se dit, voilà, rétrospectivement, on aurait peut-être pu éviter de fermer les petits commerces non essentiels. Jean-Yves Duménil.
Probablement. Alors sur le plan sanitaire, moi, ce n'est pas mon... Ce n'est pas à moi de commenter, mais simplement cette étude dont vous parliez mettait en avant le fait qu'effectivement, il y a moins de contamination, semble-t-il, dans les petits commerces. Et du côté des commerçants, il y a eu un sentiment d'injustice parce qu'on leur avait demandé de faire des efforts, d'investir dans des équipements qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand ils recevaient les clients, ils faisaient respecter les gestes barrières. Et donc, ils avaient le sentiment d'avoir joué le rôle qui était leur pour éviter la propagation du virus. Et puis, tout d'un coup, on leur dit « on ferme ». Donc, c'est un premier sentiment, encore une fois, d'incompréhension, une forme d'injustice, et qui s'est doublé derrière d'une colère et d'une exaspération quand il y a eu ce débat parfaitement stupide sur les commerces essentiels ou pas essentiels. Oui. Est-ce que c'est moins essentiel que d'acheter un manteau, d'acheter un livre, que d'acheter un tuyau de douche ? Point d'interrogation.
En tout cas, ce soir, le président de la République devrait annoncer l'ouverture des petits commerces pour tout le monde et non essentiel. Professeur Gaudry.
Oui, moi, je partage ce point de vue. C'est-à-dire, si on discute, parce que ce qui a été fait peut toujours être critiqué et on peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que le risque de diffusion virale, il est important quand on reste dans un lieu pendant longtemps et quand on est démasqué. Là, c'est là que ça se passe. Donc, c'est sûr que malheureusement, ce sont les restaurateurs, les bars qui sont les premiers touchés, mais que là, vous allez acheter vos chaussures ou vous restez pas longtemps ou vous allez chercher des fleurs chez votre fleuriste, il y a quand même globalement un risque beaucoup plus faible. On le savait.
Professeur, un dernier mot sur la stratégie de déconfinement que devrait annoncer ce soir le président de la République. On nous dit en trois étapes. D'abord, l'ouverture des commerces non essentiels avec le protocole dont on parlait à l'instant. À partir du 15 décembre ou autour de cette date, une circulation plus importante pour tous les Français afin de leur permettre de se retrouver en famille, avec un couvre-feu normalement entre 21h et 7h du matin qui pourrait être décidé. Et puis un troisième temps, vers la mi-janvier, et là c'est important parce que ça donne un cap à la profession des cafetiers, des restaurateurs et des hôteliers qu'ils demandent depuis longtemps, une réouverture aussi partielle. Est-ce que ça vous semble une bonne méthodologie de déconfinement ?
C'est ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire un déconfinement progressif et surtout en tirant les enseignements du premier déconfinement et en essayant de faire mieux. Alors ce ne sera pas facile parce qu'on aura tous envie de retourner vivre normalement. Néanmoins, il y aura des éléments qu'on pourra probablement améliorer dans le déconfinement. Et puis surtout, il ne faut pas oublier quelque chose, parce que je pense qu'il faut quand même s'accrocher à quelque chose qui est important, à donner de l'espoir aux gens, parce que je pense que c'est un élément fondamental. Au début de l'année prochaine, nous aurons très probablement le vaccin qui sera disponible.
On l'espère.
Et ça fera partie de l'outil essentiel pour contrôler cette épidémie et donc pour revivre à peu près normalement.
Question, et puis on marque une nouvelle pause, Jean Duménil. Vous êtes favorable, vous, à un assouplissement du télétravail en entreprise ?
Assouplissement. On est favorable à ce qu'effectivement les entreprises qui le peuvent aillent vers davantage, enfin, vers du télétravail, comme elles le font aujourd'hui.
Oui.
Simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est une obligation.
Une contrainte. Oui.
Mais bien sûr, on ne veut pas d'obligation sans tenir compte de la réalité des entreprises. Maintenant, celles qui sont en capacité de faire du télétravail, elles le font aujourd'hui. C'est très bien comme ça et je pense qu'elles continueront à le faire tant que les pouvoirs publics leur demanderont.
Bien.
Mais il faut s'adapter à la réalité des entreprises, à leur taille, à leur type d'activité. Un boulanger ne pourra jamais faire du télétravail, qu'on le veuille ou pas, par exemple.
Oui, à moins de manger une baguette virtuelle, mais ça me paraît compliqué parce que c'est pas simple. Merci, vous restez avec nous, évidemment, 19h36, vous restez avec nous, vous aussi, qui nous écoutez dans votre voiture ou à la maison. Et dans un instant, on ira du côté de Cannes pour retrouver Florence Kamerman. Vous savez, cette libraire que nous avions eue au téléphone plusieurs fois depuis le début de la crise, qui avait refusé de fermer sa librairie. On entendra sa réaction avant les annonces d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Oui, 19h40, édition spéciale, à quelques minutes maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. On attend beaucoup, beaucoup de choses ce soir à propos de cette stratégie de déconfinement gradué, l'ouverture des commerces, la reprise des activités pour les plus jeunes, les lieux de culte, la règle du 1 km, beaucoup de questions et beaucoup de réponses à préciser par le chef de l'État ce soir. Et on continue d'en parler donc jusqu'à 20h avec nos invités. Vous pourrez suivre évidemment cette prise de parole en direct avec nous sur Europe 1. Et on est en ligne donc avec Florence Kamerman, propriétaire de la librairie Autour d'un livre à Cannes. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
On est ravis de vous retrouver car on vous avait eu plusieurs fois en ligne directe dans le 18-20 notamment et vous nous aviez expliqué que vous aviez décidé de résister et de rester ouverte malgré les menaces de fermeture administrative, malgré les visites répétées des officiers de policiers dans la ville de Cannes. Vous aviez eu le soutien d'ailleurs du maire de Cannes, monsieur Linard. Vous êtes soulagé ce soir j'imagine à l'idée d'une réouverture dans les jours à venir ?
Écoutez, soulagé, oui, mais tout va être une question de date. Ces derniers jours, il y a une valse de dates, le 26, le 27, le 1er, etc. Le plus tôt serait le mieux, parce que chaque jour compte. Et moi, j'aurais trouvé que dans la logique et dans le bon sens, il aurait mieux valu ouvrir un peu plus tôt, aux alentours du 15 novembre, pour éviter une cohue dans les boutiques.
Oui.
Donc nous avons décidé d'engager quelqu'un pendant le mois de décembre pour réguler les entrées, parce que nous ne sommes pas irresponsables, contrairement à ce que le gouvernement a pu penser. Mmh. Nous sommes extrêmement vigilants et nous allons recruter quelqu'un qui va réguler les entrées en boutique. Et on va faire évidemment être très très vigilants.
Et parce juste que je pense qu'à présent, madame, vous avez réussi à échapper à la fermeture administrative. Vous nous disiez la dernière fois que vous étiez menacée.
Nous avons eu 4 visites de la police et la dernière, évidemment, le policier nous a apporté lors de la dernière visite la mise en demeure de fermeture administrative immédiate. Donc là, pour le coup, nous nous sommes un peu retranchés, nous avons plié pour ne pas rompre et avons repris un système de click and collect. Mais les 15 jours où nous sommes restés ouverts ont sauvé clairement la librairie.
Sinon, c'était la fermeture du rideau pour toujours.
Ah bah sinon, avant la fin de l'année, on baissait le rideau, on mettait la clé sous la porte. Je veux dire, c'était évident financièrement, économiquement, nous n'aurions pas tenu.
Oui.
Et puis il y a l'autre combat, qui est le combat philosophique. La librairie doit être considérée comme un commerce absolument essentiel, voire vital. Je veux dire, particulièrement en période de confinement, de regain du terrorisme, etc. Donc autant dire que le combat a été double, économique pour la librairie, mais aussi pour que, dans le cadre d'un éventuel troisième confinement, il soit bien entendu que la librairie doit être un commerce essentiel.
Message entendu. Merci infiniment, Madame Kamerman, d'avoir témoigné ce soir en direct sur Europe 1. Professeur Gaudry, un troisième confinement, ça c'est possible? Une troisième vague et qui justifie un troisième confinement?
Alors,
je vous pose la question parce que, après le premier confinement, le 14 juillet, le président de la République nous avait dit vous inquiétez pas, on sera prêt.
Oui.
Et puis, rebelote, on a été obligé d'être confiné.
La réponse est très claire, il faut absolument dire que c'est possible, mais qu'on va tout faire pour l'éviter. Donc, les anticipations, la boule de cristal, ça ne marche pas. Ce qu'on sait, c'est que ce virus peut revenir. On le sait maintenant, on l'a vu. Donc, il n'y a pas à discuter autour de cela. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est le maximum pour que ça ne revienne pas. Il y a des outils qu'on a, de nouveaux outils qu'on a par rapport au premier déconfinement.
Oui.
On a plus de tests antigéniques. Et probablement, même s'ils sont moins performants, je pense qu'il faut qu'ils soient utilisés dans la démarche globale de protection de la population et d'éviter pour que le virus circule. Il y a le vaccin qui va venir. Et tout ça, ça nous permet d'aller vers de l'avant et d'espérer quand même que les choses s'améliorent et d'espérer qu'il n'y ait pas une troisième vague nécessitant un troisième confinement.
On l'espère tous. Jean Duménil, secrétaire général de la CPME, est-ce que vous attendez aussi ce soir des annonces concernant de nouvelles mesures d'aide, de soutien aux entreprises, à l'économie et évidemment aux PME?
Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'on a réclamé à chaque fois et ce qu'on a reproché d'une certaine manière au gouvernement, c'est de faire des annonces de restrictions sans faire en parallèle, en même temps, les annonces de soutien aux entreprises. Il y a toujours un décalage, et ça, pour les chefs d'entreprise, c'est absolument catastrophique.
Je crois que vous militiez, par exemple, il y a une quinzaine de jours, pour des aides supplémentaires en faveur des PME, notamment un étalement dans le temps, jusqu'à 10 ans, du remboursement des PGE, les prêts garantis pour l'État. Vous en êtes où là-dessus?
Oui, bah écoutez, c'est assez simple. C'est que sur le prêt garanti par l'État, il y a plus de 500 000 entreprises qui en ont profité, et il y avait un différé de remboursement d'un an. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, les entreprises auraient dû commencer à rembourser le PGE. Malheureusement, on voit bien la situation telle qu'elle est aujourd'hui et énormément d'entreprises n'auraient tout simplement pas été en capacité de commencer à rembourser. Donc pour elles, on n'a pas d'autre choix
que
d'étaler dans le temps. Et nous, on milite en faveur de ce qu'on appelle un prêt consolidation, réunissant l'ensemble des dettes liées à la période Covid, les regroupant et les étalant leur remboursement sur une période plus longue, comme on fait pour les citoyens qui sont dans un cadre de surendettement. Bah, faisons la même chose pour les entreprises.
Oui.
Et on pourra sauver énormément d'entreprises.
La hausse du crédit d'impôt pour les bailleurs afin de soulager les entreprises sur la question du loyer. Est-ce que, je crois qu'on est passé de 30 à 50%. Est-ce qu'on y est là à peu près? Est-ce que ça suffit pour soutenir les entreprises
qui
continuent, on le rappelle, de payer des loyers alors qu'ils ont une activité et un chiffre d'affaires à zéro?
Alors, une des difficultés, c'est un effort important par rapport à ce qui était prévu initialement. La difficulté, c'est que ça serait à partir du deuxième confinement. Or, on a des gens qui traînent toujours des loyers impayés de la première période de confinement. Donc pour eux, il va bien falloir trouver des solutions. Mmh. Et puis des trous dans la raquette, il y en a d'autres. Il y a la question des stocks, par exemple. Quand vous êtes un commerçant habillement et que vous avez constitué des stocks de vêtements pour la saison, vous avez sorti de la trésorerie. Si vous n'êtes pas en capacité de les vendre, vous n'aurez pas de trésorerie pour renouveler votre collection derrière. Donc l'entreprise sera en danger.
19h46, dans quelques secondes maintenant, la prise de parole du chef de l'État. Vous restez évidemment avec nous. Je voudrais vous interroger brièvement, Jean-Yves Duménil. J'ai été un peu surpris par les déclarations des responsables du MEDEF et de la CPME. Alors il y a quelques jours, le patron du MEDEF, Geoffroy Drouot de Bézieux, disait qu'il n'était pas raisonnable de vouloir décaler le Black Friday. Et François Asselin, votre président, disait « ça n'est pas possible, on ne peut pas arrêter ». La marée montante. Alors j'ai été un peu étonné parce que généralement le MEDEF est combatif et que finalement le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, y est parvenu à décaler le Black Friday. Et heureusement, parce que ça fait du bien à nos commerçants, ça.
Alors en tout cas, du côté de la CPME, ce que je peux vous dire, c'est que le Black Friday, c'est une opération commerciale. Donc ce sont les enseignes qui pratiquent le Black Friday qui décident de la date d'application. Il n'y a pas un texte disant aujourd'hui ça va être le Black Friday. Donc il y a eu un accord qui a été trouvé, c'est une très bonne chose, avec des grandes enseignes, précisément pour décaler le Black Friday. Mais vous comme moi, on a tous reçu sur nos téléphones portables des annonces de Black Friday maintenues à la date.
Oui.
Donc c'était dans ce sens-là que la marée montante ne pouvait pas être arrêtée.
C'est vrai.
Mais tout ce qu'on peut faire pour éviter que la réouverture se traduise par un afflux massif et brutal de personnes dans les magasins, évidemment, on y a tous intérêt sur le plan sanitaire. Et ce que disait le professeur tout à l'heure, on est parfaitement d'accord. Il n'y a pas le sanitaire d'un côté, l'économique de l'autre.
Les deux sont liés.
Bien sûr, bien évidemment.
Professeur Stéphane Gaudry, vous attendez des annonces aussi sur la stratégie de vaccination de la France?
Oui, je pense que c'est très important. En tout cas, je sais qu'il y a des groupes de travail qui planchent un petit peu là-dessus. Il va falloir que, avant que le vaccin arrive, on ait déjà prévu comment on va vacciner, qui on va vacciner.
On a l'impression qu'on est déjà en retard sur le sujet par rapport à l'Allemagne. C'est une vue d'esprit ou c'est une réalité?
Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà bien leur plan en tête sur comment les choses vont se passer. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de communication. Mais on est dans un pays, malheureusement, où vous le savez, il y a un petit peu de fausses informations qui tournent autour des vaccins et d'anti-vaccins. Et malheureusement, je pense que c'est plus compliqué que dans d'autres pays de mettre en place un certain plan. Et ce qui est très important...
On est aussi le pays des comités Théodule. C'est pour ça que je vous pose la question. Parfois, on a tendance à se prendre un peu...
Ce qui va être très important, c'est de donner une information correcte sur comment s'est fait ce vaccin. Et en fait, pour bien expliquer à la population qu'il a suivi la même procédure de qualité que n'importe quel autre agent de santé qu'on donne à des patients. Donc, ce sera le même niveau de sécurité que n'importe quel autre vaccin. C'est ça qui est très important et c'est ça que les Français doivent comprendre. Et pour éviter d'avoir une catastrophe nouvelle, il va falloir qu'on trouve en tout cas les moyens de bien informer les gens autour du vaccin.
Alors, restez avec nous, 19h48, dans 12 minutes maintenant, l'allocution du président de la République. On est toujours avec nos invités et on va suivre tout cela ensemble en direct. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
Et dans 8 minutes, on suivra ensemble l'allocution du chef de l'État, édition spéciale, effectivement, jusqu'à 20h. Et puis, on se retrouvera avec nos invités après pour le débrief. On est notamment avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME. Jean-Hugues Duménil, on évoquait avec le professeur Gaudry cette campagne de vaccination. On imagine que le président de la République devrait s'exprimer sur le sujet. C'est vrai qu'il y a une défiance en France vis-à-vis des vaccins et notamment vis-à-vis de ce vaccin anti-Covid qui devrait arriver dans les mois qui viennent en France. Est-ce que vous appelez par exemple aux affiliés, les patrons de PME à se vacciner d'abord et puis à profiter de ce moment pour lancer des campagnes de vaccination dans leurs entreprises peut-être?
Alors, lancer les campagnes de vaccination dans les PME, simplement, parce que ce n'est pas le rôle du chef d'entreprise. Et puis surtout, ce n'est pas le chef d'entreprise lui-même qui va vacciner ses salariés.
Parce que c'est se protéger économiquement aussi pour le...
Bien sûr, mais alors par contre, pour répondre à votre question, est-ce qu'on souhaite que la vaccination se répande? Évidemment, bien sûr que oui, pour une raison très simple, c'est que notre intérêt commun, c'est que les entreprises puissent travailler dans des conditions normales et qu'on sorte de cette période terrible. Et on ne peut pas être à la fois... contre la Covid en disant que c'est catastrophique pour l'économie, ce qui est le cas aujourd'hui, et contre la solution qui est celle du vaccin. Enfin, il faut un peu de cohérence.
Oui. Vous êtes d'accord, professeur Gaudry, il faut appeler les Français à se vacciner massivement, la question de l'obligation, à mon avis, est un faux sujet, parce que tous les médecins, moi, me répondent quand je leur pose la question. Ça serait dramatique, parce que ça enverrait le message inverse.
C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté l'éducation autour de la recherche, de la science et de comment on développe un médicament ou un vaccin, et comprendre que ça suit un certain protocole avec des gages de qualité et que les vaccins qui vont être proposés en France seront des vaccins qui auront suivi parfaitement ce protocole pour permettre une sécurisation parfaite. Et donc les vaccins apportent un bénéfice absolument considérable en termes de propagation des maladies infectieuses, on le sait, et donc il faut donner cette information-là qui est une information cohérente et qui est bonne pour toute la population, qu'on soit soignant, pas soignant. Tout le monde va y trouver son compte si on arrive à définitivement mettre le Covid derrière nous.
Jean-Yves Duménil, on sait que la CPME, comme le MEDEF, est en lien direct avec le cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'économie à Bercy. Il s'est battu comme un lion pour obtenir cette ouverture et cet assouplissement auprès du président de la République.
Écoutez, oui, il semblerait effectivement qu'il ait milité dans ce sens-là. Ça étant dit, il était aussi ministre de l'économie quand la décision a été prise de fermer les petits commerces et de distinguer entre l'aspect dit essentiel et non essentiel. Donc, il était bien, effectivement, enfin, il serait bien, parce qu'on n'a pas encore confirmation totale et définitive, il serait bien, effectivement, qu'on rentre dans quelque chose de normal et que les commerçants puissent travailler dans des conditions de sécurité sanitaire. Nous, on a été très frappés ces jours-ci de constater les quelques mouvements de colère, encore une fois, on peut les entendre et les comprendre, de commerçants qui descendaient dans la rue, et les slogans qui étaient sur les panneaux, c'était « Laissez-nous travailler ». des gens qui manifestent pour qu'on les laisse travailler, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Francis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vous qui le dites. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, nous a retrouvé à nouveau. Francis Palombi, on est à quelques secondes maintenant
de la prise de parole de
d'Emmanuel Macron. Vous croisez les doigts et vous y croyez dur comme fer à la réouverture des petits commerces?
Oui, je pense que, très sincèrement, en tant que président des commerçants de France, des très petites entreprises, les plus fragiles, souvent les plus affectées, par ce Covid-19, après 2 ans de labeur, de manifestations, gilets jaunes, grèves, etc., il n'y a pas d'autre solution que de réouvrir en respectant les normes sanitaires, même renforcées, avec quelques adaptations, nous le pensons et nous l'espérons.
Mais on joue gros quand même, M. Palombi, parce que si on se dirige vers une troisième vague, personne ne le souhaite, mais si ça arrive, les commerçants ne pourront pas le supporter cette fois-ci.
Écoutez, mon collègue de la CPME l'a dit il y a quelques minutes, si les aides d'aventure faiblissaient ou s'arrêtaient, c'est la faillite. C'est le rideau qui descend et vous pouvez imaginer ce que ça coûte en termes de, sur un plan humain, parce qu'il y a tous les effets secondaires humains, il y a des suicides en perspective, il y a des faillites, donc il faut respecter les règles sanitaires, bien sûr. Mais il faut réouvrir, il faut que l'économie... Il ne faut pas opposer l'économie au sanitaire, pas.
C'est ce qu'on disait juste avant.
C'est des imbécilités.
Mais Jean Duménil, vous sentez qu'il y a une colère qui se focalise contre le gouvernement sur cette question de la fermeture des commerces non essentiels? Vous avez le ressenti que vous avez eu de
la remontée du terrain? En tout cas, dans la période récente, il y avait vraiment... C'était une désespérance. Et encore une fois, on peut comprendre les gens. Quand vous avez mis toute votre vie dans un commerce, dans une activité, et qu'on vous empêche de travailler, parce que c'est bien ça, on vous empêche d'ouvrir, alors qu'il n'y a aucune raison. Économiquement, votre fonds de commerce est viable, et finalement, vous êtes en train de le voir disparaître. Il y a de quoi être exaspéré. Donc, il faut impérativement que le gouvernement, la réponse du gouvernement, soit à la hauteur des sacrifices qu'on demande au commerce et aux chefs d'entreprise, parce que c'est ça aujourd'hui.
Et je dirais un mot de plus à ce que vient de dire Eud, c'est que dans d'autres pays d'Europe, les commerces de centre-ville, les commerces n'ont pas forcément fermé aussi radicalement qu'en France. Alors ça accentue cette révolte, cette attente de réouverture. Donc,
c'est une bonne question, ce qu'évoque M. Palombi, professeur Stéphane Gaudry. Est-ce qu'on s'en sort mieux, nous, les Français, que nos voisins européens? Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs configurations. Hein. Parfois, on était plus cloisonnés qu'eux. Parfois, on était plus contaminés qu'eux. Avec plus de décès, moins de décès, on a eu un peu du mal à... Mais là, aujourd'hui, on s'en sort plutôt mieux que les autres.
C'est très compliqué à dire parce qu'on ne pourra dire ça qu'à la fin de la crise. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a certains qui s'en sont bien sortis au début et qui ont derrière été extrêmement impactés par cette crise. Et d'autres qui ont eu le phénomène inverse. Donc à la fin, on verra bien où ça en est. Ce que je pense en tout cas, c'est que en France, on n'a pas à rougir de ce qui s'est passé, en particulier sur le plan sanitaire que je connais. On a réussi en tout cas à donner à la population un niveau de soins qui était un niveau de soins très, très de grande qualité, en évitant les catastrophes qu'il y a eu dans certains pays où des patients n'ont pas pu être pris en charge. Oui. En tout cas, en France, grâce au système de soins et grâce aux efforts de toutes les équipes.
On a été sur le fil, hein, mais ça a tenu.
On a été sur le fil, ça. On a été dans des situations, et particulièrement dans le 93 où je travaille, je peux vous dire que la situation a été extrêmement tendue, mais grâce aux efforts de tous, aux efforts des équipes, aux efforts des Français qui se sont confinés correctement pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement, on a réussi à passer ce cap-là. Et je pense que là-dessus, on a de quoi être fiers.
Et en plus, le gouvernement a quand même soutenu les entreprises afin qu'elles ne ferment pas. Et ça, il faut quand même le reconnaître.